Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, tous les jours, de 15h à 16h. Alors cet après-midi, nous vous proposons d'écouter nos meilleurs moments, ceux que nous avons sélectionnés pour vous aider à prendre soin de votre santé et de celle de vos proches. Aujourd'hui, un thème qui va intéresser toutes les familles, comment mieux gérer les conflits entre frères et sœurs. Des conseils très pratiques qui peuvent vous aider, vous verrez, à bien terminer les vacances scolaires dans un climat plus paisible à la maison. Mais avant ça, un sujet qui va vous faire du bien, j'en suis certaine, on va vous expliquer pourquoi la musique est indispensable à notre cerveau. Pourquoi et surtout comment elle lui fait du bien, pour en parler. Nous avions reçu le professeur de psychologie cognitive, Emmanuel Bigan. Allez, elle est essentielle, vive la musique.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc professeur de psychologie cognitive, membre de l'Institut universitaire de France et rattaché au CNRS à l'Université de Bourgogne. Et vous venez de publier un livre coécrit avec Barbara Tillman, ça s'appelle La symphonie neuronale chez Human Science, dans lequel vous démontrez que la musique est loin d'être un simple passe-temps. On va y venir, elle nous est vraiment essentielle et cette nécessité biologique, bizarrement, alors moi je l'ai appris dans votre livre, elle remonterait dans l'histoire à beaucoup plus loin qu'on ne l'imagine. L'homme de Cro-Magnon, grosso modo, avait déjà de la musique.
Oh oui, même probablement avant. On a des certitudes sur la période, puisqu'on a retrouvé des instruments de musique qui sont datés de 40 à 60 000 ans, qui sont des petites flûtes, qui ont des trous qui ne sont pas du tout placés n'importe comment, puisqu'on peut faire des intervalles très précis avec ces instruments. Donc ça laisse penser qu'il y avait un savoir-faire de lutherie, en quelque sorte, qui était tout à fait précis. Et donc, du coup, on peut imaginer que si ce savoir-faire était aussi développé il y a 60 000 ans, probablement l'activité avait déjà une pertinence bien avant.
Jimmy ?
C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément le langage verbal, mais ils se servaient de la musique, mais ils en faisaient quoi ?
Alors ça, c'est la grande question, de savoir si la musique était avant le langage ou comment les deux médiums ont cohabité. On peut penser que des sons musicalisés étaient utilisés, par exemple, pour la chasse, pour piéger les animaux, que ça aurait pu être une des origines des performances musicales, bien avant la possibilité de communiquer par un langage symbolique entre les êtres humains. Donc ça serait une raison d'être. Il y a d'autres raisons qui ont pu être avancées, que par la musique, les humains pouvaient se synchroniser et faire des activités qui avait plus de pouvoir pour manipuler des objets, etc. Et donc, ça serait une raison d'être de la musique. Donc, bien avant la possibilité de communiquer par la langue.
Professeur Bigan, on va revenir à nos temps modernes. Il y a eu de nombreuses découvertes ces 20 dernières années. Notamment, on a prouvé que même avant notre naissance, la musique joue déjà un rôle bénéfique dans notre développement quand on est un tout petit embryon, un fœtus. C'est le cas à partir de quel moment de la grossesse, par exemple ?
Alors, on pensait que c'était dans le dernier trimestre de la grossesse, et c'est vrai que c'est là où on a le plus d'études qui ont été faites. Alors, on faisait des études, on faisait entendre les sons par l'extérieur du ventre de la maman, et on regardait un petit peu comment les fœtus réagissaient, et surtout, qu'est-ce qu'ils mémorisaient. Et on s'est rendu compte que les fœtus mémorisent beaucoup d'informations, et ils peuvent garder en mémoire cette information pendant très longtemps. Même après la naissance, si on leur rejoue des petites mélodies qu'ils ont entendues avant la naissance, si on change des notes, eh bien, leur petit cerveau dit « Oh là là, c'était pas comme ça !» Je me rappelle que c'était pas comme ça. Donc il y a manifestement une réalité cognitive tout à fait pertinente de la musique bien avant la naissance. Et évidemment, la question, c'est de savoir pourquoi.
Ouais. Jimmy ?
Pourquoi ? Et aussi, la maman, lorsqu'elle s'adresse au bébé ou au fœtus, lui, il est capable de savoir si justement elle lui parle à lui ou si jamais elle parle aux autres, il arrive à reconnaître le son de sa voix, mais alors que le système auditif, il n'est pas très performant.
Alors, le système auditif, il commence à se mettre en place à peu près vers la 24e semaine. Maintenant, on a des expériences qui sont beaucoup plus ambitieuses, qui montrent que dès la 16e semaine de gestation, le bébé pourrait entendre. Donc, restons sur les hypothèses les plus prudentes. La 24e semaine, il commence à entendre un certain nombre de choses, mais tous les éléments musicaux qui sont liés à la communication, c'est-à-dire le rythme, les changements de hauteur, ça, c'est bien perçu par le bébé. Il sait les analyser et donc il sait si la maman s'adresse à d'autres personnes ou s'adresse à lui. Il y a des caractéristiques rythmico-mélodiques qui sont différentes. Mais ce qui est surtout important, c'est que le bébé comprend cela par des paramètres musicaux. Donc en fait, tout est musique avant même la naissance. Et c'est parce que cette musique parle de la maman, si elle est en pleine forme, si elle est avec des gens avec qui elle est contente, ou si au contraire elle est dans une dispute, et de ses états émotionnels qui sont importants pour le bébé, que le bébé fait attention à cela. Donc ça, c'est une des premières raisons pour laquelle le cerveau du fœtus a tout intérêt à développer des neurones pour comprendre ça.
Est-ce que ça a un intérêt pour les femmes enceintes, justement, de stimuler, je ne sais pas, cet éveil musical d'une façon ou d'une autre quand elles sont enceintes pour le bébé ? Est-ce que ça fait du bien à leur cerveau, à leur développement, quand ils sont encore dans le ventre ?
Alors si, pour la maman, c'est c'est un mode naturel d'interaction avec son bébé de faire de la musique, oui, super, parce qu'en fait, le bébé, c'est pas tant la musique, c'est pas un mélomane à ce moment-là. Lui, il veut juste comprendre l'état de sa maman et ce qui se passe d'important. Donc, si la musique est un moyen naturel pour la maman de s'exprimer, oui, bien sûr, ça va être très utile pour le bébé. Maintenant, si la maman aime pas du tout la musique et met un casque pour faire écouter du Mozart en pensant tout à fait autre chose, je suis pas du tout sûr que ça intéresse le bébé. Le bébé s'intéresse à la maman, pas à Mozart.
Jimmy.
Et on sait si le fœtus qui est exposé à la musique peut lui aussi faire des vocalises, non pas parler, mais il faut aussi du bruit, il réagit.
Alors, les études les plus surprenantes, alors il faudra les confirmer, elles ont été faites il y a 2-3 ans par un institut à Barcelone qui a montré que lorsque le fœtus, dès la 16e semaine de gestation, entend de la musique, sa bouche et sa langue font des mouvements de parole, comme s'il était en train de répondre par la parole. Alors, ça peut paraître complètement surprenant, mais ça pourrait vouloir dire que la musique est un super stimulus déclencheur du langage. Et on sait que...
Ils apprennent à parler déjà à 16 semaines de grossesse,
ils mettent en place, ouais. Ils mettent en place les schémas de la communication. En fait, le bébé, avant la naissance, se prépare à la vie sociale qu'il va avoir. Et donc, mettre en place les schémas de communication font partie de ses objectifs. Et donc, la musique pourrait contribuer à cela.
Et ces bébés qui font des vocalises, dans cette étude, je ne sais pas si c'est celle de Barcelone ou une autre,
oui,
mais il paraît qu'ils aiment particulièrement la flûte et la voix de Mickey Mouse.
Alors voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est des études qui sont faites avec une petite flûte qui joue des mélodies. Et lorsque le bébé entend cela, il va répondre par des mouvements de parole. Des mouvements de parole, il ne parle pas, mais enfin, il y a la bouche et la langue qui font exactement ces mouvements-là. Ce qui suppose déjà une connexion neuronale entre l'audition et la motricité, le cortex moteur, qui sont particulièrement élaborés pour ce date de gestation. Et donc on peut penser que, et on a même montré que si on fait entendre de la musique, c'est mieux la musique que la voix.
Et Mickey Mouse, ils aiment Mickey Mouse.
Ils aiment Mickey Mouse parce que toutes les caricatures, c'est ce qu'on appelle les super stimulus, c'est-à-dire que les stimulus qui sont encore plus caricatureux que les vrais, déclenchent ces réponses.
Merci beaucoup Emmanuel Bigand, nous allons poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez avec nous.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, Emmanuel Bigand. Vous êtes professeur de psychologie positive, pas positive, cognitive pardon, mais c'est positif aujourd'hui. Vous avez santé, je suis très emballée par l'émission. Vous êtes rattaché au CNRS à l'Université de Bourgogne et vous êtes aussi le co-auteur du livre que Jimmy va montrer, la symphonie neuronale chez Human Science. Alors professeur Bigand, on a parlé des bébés juste avant, on va parler à présent de l'importance de la musique chez les enfants un petit peu plus grands. Là aussi, je crois que les preuves ne manquent pas. Et notamment chez les petits-enfants, on sait aujourd'hui que la musique, c'est un bon moyen de contrôle des émotions. Expliquez-nous.
Ben oui, le contrôle des émotions pour le bébé, en fait, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Si le bébé a affaire à des angoisses et est seul face à ses angoisses, il va investir beaucoup d'énergie qu'il ne va pas mettre dans son bon développement. Donc la prise en charge émotionnelle du jeune bébé par la maman, c'est vraiment une activité très importante et la musique joue un rôle pour cela. Donc à chaque fois qu'on peut réguler l'émotion du bébé, on facilite son développement. C'est bête à dire, mais c'est vraiment une réalité. Donc ça, c'est pour les tout petits bébés. Et en même temps, le bébé va comprendre que c'est un mode d'interaction avec sa maman. Il attire l'attention de la maman par des jeux musicaux. Et donc, il y a une communication qui se crée. Et cette communication a des enjeux adaptatifs tout à fait importants. Et elle contribue à développer des neurones pour développer des capacités musicales, même si la musique du jeune bébé ne correspond pas à celle que nous, on écoute. Mais c'est le même fondement cognitif.
Est-ce que cette musique pourrait avoir un pouvoir affectif? Par exemple, au moment où l'enfant doit aller à la crèche, il peut se mettre à pleurer. Est-ce que la musique pourrait aider pour détourner un peu son attention?
Alors la musique peut aider tout à fait, non seulement à détourner l'attention, mais c'est un peu ce qu'on appelle en psychologie clinique un objet transitionnel. C'est-à-dire c'est un moyen de prendre de la distance par rapport à ses émotions. Dans le livre, on cite l'exemple de cet enfant qui demandait sa maman en crèche. Et donc on a fait une chanson sur la maman absente et on a pris un air connu, puis on a fait un texte pour jouer avec le fait que la maman n'était pas là. Le fait de mettre ça en musique.
Sur mon beau sapin, je crois.
Sur mon beau sapin.
Oh, ta petite maman te manque.
Exactement. On va pas chanter
non.
Là. Mais donc, c'est un moyen pour l'enfant de prendre des distances par rapport à son émotion et de la contrôler. Ce qui est extraordinairement important parce que l'enfant ne doit pas perdre en quelque sorte son énergie interne à gérer ses angoisses. Il doit la mettre dans du développement positif. Et donc, cette canalisation de l'énergie est tout à fait utile chez les tout petits, bien sûr.
Professeur, vous écrivez aussi que chez les enfants, la musique favoriserait la sociabilité, c'est-à-dire comment ça fonctionne?
Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Chez les enfants, même tout petits de quelques mois, on a fait des études qui montrent que si vous avez une interaction musicale avec un enfant que vous ne connaissez pas, cet enfant va avoir beaucoup plus d'attention pour vous. Donc, une étude tout à fait remarquable où l'expérimentatrice laisse tomber un objet par terre. Si elle a eu l'occasion de faire de la musique avec cet enfant, l'enfant va lui ramener l'objet quand elle lui demande de le ramener.
Sinon, il lui jette à la figure.
Sinon, il ignore où il part avec.
Ah.
Donc les résultats sont tout à fait surprenants. Et en fait, c'est vraiment ça, quelque chose qu'on essaye de découvrir maintenant. C'est pourquoi la musique a ce pouvoir d'empathie sur les tout-petits.
Jimmy ?
Est-ce que ça pourrait créer aussi un esprit fédérateur dans une classe, chanter tous ensemble, créer une petite musique, c'est important ?
Oui, il y a même des professeurs qui l'utilisent tous les matins. Ils demandent, alors il y a différentes façons de le faire, mais à un élève de venir avec 3 minutes de musique et on écoute la musique de l'élève. Et le fait même d'écouter la musique qu'un élève a choisi, mais ça met toute la classe dans un certain état d'esprit. Il y en a d'autres qui font chanter. Et probablement, on y parlait en début d'émission, c'est peut-être une des premières fonctions de la musique, c'était d'avoir fait la cohésion des groupes humains pour affronter des difficultés, pour montrer à d'autres groupes qu'on était plus fort que les autres, etc. Donc ce pouvoir de cohésion sociale est véritablement important, y compris chez les enfants.
Alors, très intéressant aussi, la musique faciliterait les acquisitions scolaires. On est en période de rentrée, ça nous intéresse. Comment on peut l'utiliser pour que nos enfants soient les meilleurs possibles à l'école ?
Voilà, alors ça, c'est évidemment la grande question. On a tous envie que nos enfants se développent mieux, y compris et plus de facilité pour l'école. Il y a eu beaucoup d'études et les résultats sont tout à fait surprenants. Je voudrais juste citer une belle étude qui est mal connue de l'Université de Bourgogne par mes collègues Bruno Minga et Suchot. Et ils ont fait une étude sur un très grand nombre de classes en dernière année de maternelle. Ils ont montré que plusieurs années après une sensibilisation à la musique en première année de maternelle, on a des facilitations dans les acquisitions scolaires pour la lecture, pour l'écriture, etc. Donc ce sont des effets à long terme. Une année et à raison de 2 heures par semaine de musique les grandes classes de maternelle, ça a un effet sur plusieurs années. Vous voyez, par les temps d'économie.
Vous avez dû faire beaucoup de musique pour faire médecine derrière. Jimmy, j'imagine que votre enfant, c'était musical.
Ah ben, non, faire de la musique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire chanter ou aussi faire un instrument de musique
Ce sont des ateliers, dans cette étude-là, ce sont des ateliers de participation musicale.
Simplement
donc il y a
du
rythme, il y a du chant, il y a un petit peu d'écriture, un petit peu de technique, mais c'est vraiment
c'est
de la musique.
C'est pas devenir guitariste professionnel.
Voilà, c'est
ou je
ça, c'est
quoi,
pas de la musique comme on peut avoir dans les écoles spécialisées, etc. C'est vraiment une animation musicale un petit peu construite, mais ça a déjà des effets à long terme. C'est assez extraordinaire.
Alors, être musicien, c'est peut-être encore mieux. Du coup, pour les enfants, on imagine, mais est-ce que si on force son enfant à faire des cours de violon qu'il déteste, ça aura ces mêmes bénéfices sur son cerveau, sur ses acquisitions ?
Alors là, c'est devient compliqué parce qu'il peut y avoir des effets pervers, si je peux dire, de la musique. C'est-à-dire que si elle est mal faite, mal enseignée, trop enseignée et à contre-cœur pour l'enfant, on n'est pas du tout sûr, nous, scientifiques, qu'on aura des effets positifs. D'une certaine façon, vous avez les mêmes effets pervers dans le sport. Si vous faites trop de sport, trop mal, mais vous avez un corps qui a beaucoup souffert et qui peut être très vieux à 40 ans, alors que ce n'était pas du tout le but.
Donc c'est pas, il ne faut pas forcer. C'est pas... Par contre, s'ils aiment ça, il faut encourager vraiment. Ça, c'est important.
Voilà, je pense que la musique, c'est une communication avec les autres. Et si c'est un moyen de bien vivre avec les autres, oui, effectivement, l'enfant va en tirer tous les bénéfices.
Alors, on va passer à présent aux bénéfices de la musique sur le cerveau des adultes. Je crois que vous dites que la musique et la variété de styles musicaux auxquels on peut s'exposer permet de travailler notre flexibilité cognitive. Expliquez-nous simplement ce que ça veut dire.
La flexibilité cognitive, c'est un petit peu comme la flexibilité du corps, en fait. Il y a des gens qui sont un peu rigides, vous savez, on a même une expression qui dit psychorigide.
Ouais.
Et puis il y a ceux qui peuvent passer d'un sujet à l'autre, qui peuvent changer d'activité, etc. Et la musique, par sa diversité stylistique, stimule toutes ces capacités-là. Quand vous écoutez un style de musique, vous passez à un autre style de musique qui est très différent, que vous multipliez les opérations comme ça, ben vous entraînez la flexibilité cognitive.
Donc Jimmy doit être rouillé, il écoute que du rap, c'est pas terrible. Il vaudrait mieux qu'il varie un peu, qu'il passe de quelques symphonies classiques à du rap, en passant par du rock, c'est mieux.
Bah, c'est pas le rap qui est en question, le rap c'est très bien, mais c'est le style, oui, rester cantonné à un style, c'est un peu dommage, aussi plaisant soit-il, c'est dommage parce qu'on a des milliards de styles. Regardez, si on pense à tous les styles qui existent dans l'histoire et dans la géographie, toutes les cultures différentes, on a de quoi s'oxygéner le cerveau.
Et le rendre bien flexible.
Voilà.
Jimmy ?
Mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau si la musique, on dit, adoucit les mœurs ? Est-ce que vraiment il y a de la chimie qui se passe et qui fait que... On se sent apaisé par une symphonie, par exemple.
Oui, ça, c'est un peu la grande découverte des neurosciences actuelles. C'est qu'on pensait que le plaisir musical était une sorte de plaisir intellectuel, mais qui n'avait pas vraiment de substance, ou alors qui stimulait que les réseaux vraiment néocorticaux du cerveau. En fait, non, on s'est rendu compte que la musique change l'état biochimique du cerveau. Et par exemple, lorsque vous écoutez de la musique qui est très plaisante, bien, ça stimule les circuits de la récompense, qui sont des circuits extrêmement archaïques et qui produisent notamment de la dopamine, qui est un transmetteur, qui est un neurotransmetteur essentiel pour la sensation de plaisir, mais aussi pour l'action. Donc on a fait beaucoup d'études qui montrent que en fait le plaisir musical change complètement la production hormonale, la production de neurotransmetteurs au sein de notre cerveau, change l'état biochimique du cerveau. Donc c'est un vrai effet en profondeur. L'avantage, c'est que ça reste, ces changements, même si la musique s'est arrêtée. Vous voyez, vous avez une expérience musicale tout à fait intense, mais vous pouvez en avoir des effets positifs pendant plusieurs semaines.
Et si ça change donc toute cette biochimie cérébrale d'écouter de la musique, est-ce que ça pourrait pas être aussi avoir une action physique, par exemple antidouleur, puisque ça fait sécréter sécréter de bonnes hormones. Est-ce que ça, on pourrait utiliser la musique comme un analgésique?
Oui, on l'utilise tout à fait, exactement, pour aider les gens qui souffrent. Les patients fibromyalgiques, on a dirigé une thèse avec le neurologue Gérard Mic à Grenoble sur cela. Comment on peut soulager la douleur des patients chroniques avec la musique? Alors, ce que l'on voit, c'est qu'on n'enlève pas complètement la douleur. On n'est pas dans un monde magique, mais on peut diminuer la dose de médicamentation.
Ouais.
Et pour des gens qui ont des problèmes à supporter ces médicaments, c'est parfois l'unique recours.
Bien, ouais, bien sûr. Jimmy ?
Et ça stimulerait aussi ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. En quoi ça consiste concrètement ?
Alors, la plasticité cérébrale, c'est le fait que vous avez plein de neurones qui sont connectés ensemble et qui communiquent par des petits points de rencontre qu'on appelle des synapses. La plasticité, c'est d'augmenter ces points de rencontre et d'améliorer le fonctionnement de ces synapses. Et ce que l'on montre, c'est que la musique fait travailler différents groupes de neurones. Quand différents groupes de neurones travaillent au même rythme, ce que fait la musique, eh bien, la connexion entre ces synapses s'améliore. Donc on a des effets de plasticité.
Donc ça vaut vraiment le coup d'écouter plein de musiques et plein de musiques différentes,
et d'en faire aussi,
de types variés, bien sûr. On va passer maintenant au bienfait de la musique, mais alors quand le cerveau déraille, entre guillemets, ou est malade, justement, vous en parlez beaucoup dans votre livre, on sait par exemple que la musique, l'exposition à la musique serait bénéfique pour les patients atteints d'Alzheimer.
Oui, ça c'est les découvertes peut-être les plus extraordinaires qu'on a faites dans les 10 dernières années, de montrer que lorsque le cerveau est atteint, vous avez des modifications psychologiques, neuropsychologiques qui se produisent, mais que la musique peut contribuer à réorganiser, à relancer une plasticité cérébrale pour essayer de récupérer certaines fonctions. Par exemple, des patients qui, à la suite d'AVC, ont perdu le langage ou un certain nombre de facultés psychologiques, s'ils écoutent de la musique pendant 2 heures tous les jours pendant 3 mois, vont récupérer plus de capacités psychologiques générales que des patients qui font une rééducation standard.
Incroyable.
Donc la musique est un vecteur de neuroplasticité et du coup, on a essayé de regarder comment elle pouvait être utilisée pour l'accompagnement des patients Alzheimer, des patients parkinsoniens, des patients aphasiques et tout un ensemble de patients.
Jimmy ?
Est-ce que ça permettrait aussi de lutter contre le vieillissement du cerveau ? Est-ce que, par exemple, les musiciens ont un cerveau qui vieillit moins bien que le mien ou celui de Mélanie, par
mieux
exemple.
Mieux même, mieux.
Ce qu'on a montré, effectivement, des études montrent que les cerveaux musiciens sont moins sujets à certaines pathologies. On a montré des choses tout à fait surprenantes. Si vous avez fait 10 ans de musique, vous avez, pendant toute votre vie, des capacités bien meilleures pour comprendre le langage dans des environnements bruités, par exemple.
Mmh.
Et ça, c'est très utile, parce que si à 60 ans, vous commencez à avoir du mal à supporter les conversations de groupe parce qu'il y a trop de bruit, eh bien, ça vous permet d'avoir une vie sociale prolongée, ce qui est un moyen de lutter contre le vieillissement cognitif. Donc, actuellement, les enjeux des études actuelles, c'est de confirmer cela. Et ce que je peux vous dire, c'est que oui, si vous voulez faire de la musique, vous aimez ça, vous en avez jamais fait, faites-en, vous vieillirez cognitivement moins vite.
Pour terminer, un point plus étonnant, je dirais, vous écrivez dans votre livre que la musique serait intéressante pour la prise en charge des personnes atteintes de surdité. Alors là, il faut nous expliquer, je ne comprends pas comment ça peut marcher.
Alors, les personnes atteintes de surdité bénéficient d'appareillages. Parfois, les appareillages, notamment chez les enfants, sont tardifs. Donc, il y a beaucoup de retard pour réapprendre un certain nombre de choses. Réapprendre par le langage, c'est moins efficace que réapprendre par la musique. On a eu beaucoup de thèses qui ont été développées sur cela. Chez les personnes âgées qui perdent l'audition, eh bien, elles ne vont pas bénéficier de tous ces effets de la musique sur le vieillissement cognitif. Donc, on a tout intérêt à les appareiller, voire à les implanter, justement pour leur donner accès à ces expériences musicales qui sont des expériences musicales, mais aussi fondamentalement psychologiques, puisque ça permet d'entretenir la flexibilité mentale, la flexibilité cognitive.
Merci beaucoup, professeur Bigand, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et pour ceux qui voudraient en savoir encore plus sur les bienfaits, sur le rôle essentiel de la musique sur notre santé, je rappelle le titre de votre livre, La symphonie neuronale chez Humaine Science. Merci encore.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Alors, il est temps maintenant de passer à notre séquence, les mots du quotidien. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la goutte. Savez-vous précisément ce qu'on appelle une crise de goutte? Quels sont les symptômes de cette pathologie et surtout, quel est son traitement? Nous allons faire le point, bien sûr, mais avant, on va écouter vos connaissances sur le sujet dans le micro-trottoir de Benjamin Lévesque.
La goutte ? Ah, ça me dit quelque chose, j'ai lu ça dans un livre, genre... C'est pas une maladie ancienne.
Je dirais, à part celle qu'on a au nez, je saurais pas rebondir sur le terme.
C'est pas quand ils ont la goutte au nez parce qu'ils sont torchés. Non, je pense que c'est une maladie de peau, mais je suis pas sûre.
Personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, alors.
Quand tu bois trop d'alcool, en fait, tu peux choper la goutte.
Une maladie ancienne de type la peste.
Ouais, des douleurs dans le ventre.
Ah ouais, nez rouge, genre rhume. Du coup, vu que quand tu bois, t'as le nez rouge.
Ça va être ridicule, mais je pense que ça rend le nez rouge chez les Français.
Avant, on en mourait, maintenant, il y a des traitements contre la goutte, etc.
Jimmy, on n'y tient plus, s'il vous plaît, dites-nous tout sur la goutte, c'est quoi cette maladie?
Le suspense est à son comble, le peuple, j'ai cassé le micro, voilà,
voilà,
tout va bien.
Non, ça va, ça marche.
Alors, c'est une maladie chronique qui est due à l'excès d'acide urique.
D'accord.
L'acide urique, lorsqu'elle est trop élevée, on parle d'hyperuricémie. Alors, c'est des microcristaux qui peuvent se déposer lorsqu'ils sont en trop grande quantité dans les tissus et notamment dans les articulations. Et ça va vous donner ce qu'on appelle des crises de goutte que tout le monde connaît, avec des douleurs assez insupportables, bien caractéristiques, que souvent les patients diagnostiquent avant même que le médecin les voit.
Ah ouais. Est-ce que c'est très fréquent? Parce que dans le micro-trottoir, on entendait quelqu'un qui disait « bon, c'est une vieille maladie, ça n'existe plus ». Donc on a bien compris que si, mais c'est quoi les causes? Est-ce que c'est fréquent en population?
Alors pour l'histoire de la crise de goutte, Stéphane Bern, à mon avis, sera beaucoup plus pertinent que moi. Mais néanmoins, c'est une pathologie qui est très fréquente. C'est la plus fréquente des arthropathies, donc des maladies rhumatismales inflammatoires, dans la population occidentale. C'est 1% de la population.
D'accord.
Et les hommes sont un peu plus affectés que les femmes. Alors, il y a des facteurs. Évidemment, il y a une prédisposition génétique, mais ça ne suffit pas. C'est aussi lié à nos comportements, et notamment nos comportements alimentaires. On est aussi un peu trop sédentaire et ça peut entraîner la crise de goutte. Et puis, il y a certains traitements, notamment les diurétiques, ces médicaments qui vont vous faire uriner pour faire baisser la pression artérielle, qui peuvent déclencher des crises de goutte. Et puis, il y a d'autres maladies comme l'insuffisance rénale.
Qui peuvent conduire à la goutte.
L'obésité, qui peuvent être un facteur favorisant d'une éventuelle crise de goutte.
Bon, vous nous avez déjà dit, ça n'a pas l'air très sympa et les patients souvent se doutent de ce qu'ils ont avant que vous arriviez, vous le docteur. Mais comment on reconnaît une crise de goutte?
Tout d'abord, il y a un facteur déclenchant. On sait qu'on a commis un petit écart, un petit excès.
On a bu
un peu trop d'alcool, on a mangé trop de poisson, trop de viande. Et bien à ce moment-là, on peut avoir une petite crise. Et donc, on a mal. Et là où on a mal, c'est au niveau du pied. Souvent, au niveau du gros orteil. Il est chaud, il est douloureux, il est inflammatoire, ça lance comme si vous avez un petit abcès, c'est insupportable. Et plus rarement, lorsque la maladie n'est pas traitée correctement, lorsqu'elle évolue, elle peut toucher d'autres articulations, mais ça reste plus rare. L'immense majorité
ça
des patients...
Ça commence aux orteils, aux pieds. Quoi.
C'est plutôt les orteils.
Comment ça se traite, Jimmy, la crise de goutte? Et j'espère que ça se traite, justement.
Dans un premier temps, on traite la crise. Ça passe par soulager la douleur, donc des antidouleurs. Mais ça ne suffit pas, il faut souvent donner des anti-inflammatoires, qu'ils soient non stéroïdiens ou peu importe le nom,
des
mais souvent de la colchicine, qui calme la crise. Souvent, on prend des médicaments jusqu'à ce que la crise cède. Et puis la question, c'est pourquoi vous avez fait une crise de goutte? Est-ce que votre uricémie est trop élevée? Alors, deux situations. La première, si jamais c'est la première fois que vous faites une crise de goutte, ben, on va vous laisser tranquille. On ne va pas vous donner un traitement, on va vous expliquer quelles sont les règles à appliquer. Mais si ça ne suffit pas, et si jamais vous faites crise sur crise sur crise, on vous donne un traitement de fond. Mais d'abord, on traite la crise, et puis à ce moment-là, votre traitement, il fait partie des traitements chroniques que vous devez prendre tout le temps, comme le traitement contre l'hypertension ou le diabète.
Parce que ça peut devenir une maladie chronique, donc à vie, c'est ça?
Exactement, on peut faire des crises si jamais on est bien équilibré, ou si jamais on corrige certains facteurs de risque. On est un peu trop dans une médecine curative, mieux vaut être prédictif, et donc essayer de limiter la consommation d'alcool, de perdre un peu de poids. En règle générale, ça peut suffire, surtout en évitant les excès. On ne dit pas de vivre comme un moine, mais quand même, on peut se limiter, sauf que les patients ils se rendent compte, ils me disent « bon, ce week-end, j'ai un peu déconné, j'ai pris un peu trop d'alcool, donc évidemment, j'ai une crise de goutte ». On réexplique les choses et puis en règle générale, ça passe tout seul.
Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions claires comme une goutte d'eau de roche.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité du jour pour le dossier du jour. C'est vous Isabelle Filioza, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, bonjour à tous et toutes.
Bien sûr, alors vous êtes psychothérapeute et l'auteur de nombreux ouvrages. Alors en rapport avec notre thème du jour, je cite celui-ci, Les Caliers Filioza, frères et sœurs, chez Nathan Édition, un ouvrage pour les 5-12 ans. Alors Isabelle, on va parler des rapports aujourd'hui dans les fratries. Et justement, avant de créer une fratrie, du côté des parents, je veux dire, l'arrivée d'un frère ou d'une sœur, est-ce que c'est quelque chose qui se prépare avec le premier enfant ?
Oui, tout à fait, Mélanie, ça se prépare. Et en même temps, ne soyons pas, n'ayons pas des idées, on ne peut pas tout contrôler. Et donc, il est probable que même si c'est bien préparé, ça va quand même susciter un certain nombre de tensions et d'émotions pour l'aîné.
Est-ce qu'on lui pose quand même la question, franchement, c'est-à-dire par exemple dans le projet de grossesse, même lui dire, est-ce que tu aurais envie d'avoir un petit frère ou une petite sœur? Parce que moi, j'avais déjà posé la question, on m'a répondu non. Donc du coup,
voilà,
on le fait quand
ça.
Même. Alors,
non, alors préparer ne signifie pas demander son avis à l'enfant. C'est clair que si on lui demande son avis, quelle que soit sa réponse d'ailleurs, qu'il dise oui ou qu'il dise non, ça n'a pas à rentrer en ligne de compte en fait. C'est nous, les adultes, qui choisissons d'avoir un deuxième enfant ou un troisième ou un quatrième. Et donc, ce n'est pas, c'est important que ce ne soit pas lui qui se dise « Ah, ben, c'est moi qui ai décidé » ou « Ah ben, moi je voulais et puis maman, finalement, elle n'a pas voulu » ou « Je n'avais pas envie, maman l'a fait quand même », etc. On se sent trahi.
Jimmy ?
Oui, et puis c'est pas un paquet de gâteaux, veux-tu ?
C'est ça, hein,
voilà, peu importe. Donc bon,
il n'a pas le choix.
Il n'a pas le choix, oui. Voilà.
Mais est-ce les grands choix, ce sont les adultes qui les font. Et les enfants, on écoute leurs émotions face à ce choix, mais on ne leur demande pas leur avis.
Mais est-ce que ça dépend peut-être aussi de l'âge de l'enfant? Si vous avez un grand enfant de 10 ans, est-ce qu'on doit l'expliquer? Je pense que oui, mais est-ce qu'un petit enfant de 2 ans, parfois, quand on a des grossesses rapprochées, on peut se dire, bon, il ne comprend pas grand-chose, de toute façon, ce n'est pas la peine de lui expliquer, ça passera, il verra quand le bébé sera là.
Même s'il n'a qu'un an, on lui explique. C'est très important d'expliquer, parce que même si l'enfant ne comprend pas complètement, l'enfant se sent davantage en sécurité, simplement parce qu'on lui a parlé. Et puis nous aussi, si on n'a pas parlé à notre enfant, il a 2 ans, mais on ne lui a pas dit, du coup on fait semblant, on est forcément un tout petit peu sous tension. Et l'enfant perçoit cette tension, et c'est ça qui pose problème. Donc, même s'il ne comprend pas, on lui parle, on lui explique, mais on lui demande toujours pas son avis.
Alors par exemple, est-ce qu'on peut l'amener, je sais pas, certains le font parfois, d'amener le petit dernier, alors ça dépend l'âge, hein, mais à une échographie pour voir que le petit frère, ça met une image sur ce petit frère ou cette petite sœur qui arrive, ou est-ce que ça, c'est pas nécessaire selon vous?
C'est clairement pas nécessaire. Mmh. Après, voilà.
Est-ce que de même vraiment... pas comprendre ce qu'il voit vraiment à l'image, c'est pas... Ouais.
Bah, le monde d'aujourd'hui est fait d'images et les enfants sont de plus en plus habitués à toutes sortes d'écrans. Mais justement, c'est peut-être pas la peine de commencer directement à voir le petit frère ou la petite sœur à travers un écran. Donc, ce qui est le plus important, après, c'est chacun fait les choix dans sa famille, mais ce qui est le plus important, c'est surtout de se mettre à l'écoute du vécu de l'enfant. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que ça te fait? Voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi?
Jimmy.
Et puis une fois que le bébé est là, les grands frères ou les grandes sœurs passent peut-être tous par une période de jalousie, c'est normal, il faut l'accepter?
Oui, en fait, on appelle ça jalousie. La jalousie, c'est un sentiment qui est fait de plusieurs émotions. Et donc, c'est important de s'adresser à chaque émotion. Quand on a un petit frère, une petite sœur, eh bien, on était le seul dans la famille et tout d'un coup, ben, c'est un autre qui requiert l'attention. Donc, on se sent forcément, il y a une perte d'attachement. Et quand on sent ça, eh bien, on se sent en détresse. Et donc, il y a une peur de ne plus être aimé
par les
qui
parents,
est là.
Oui.
Mais il y a aussi la honte. Et ça, on ne réalise pas. Parce que si mes parents ne s'occupent plus de moi, c'est que j'ai dû faire quelque chose de pas bien. C'est oui. Peut-être que moi, je suis quelqu'un de pas bien. Donc, il risque d'y avoir de la honte. Ensuite, c'est pas juste. Donc, il y a du dégoût aussi. Il y a de la tristesse parce que ce qu'on avait, on ne l'a plus. Donc, il y a toute une gamme d'émotions. Et quand l'enfant n'est pas entendu dans chacune de ses émotions, eh bien, ce qui se passe, c'est que du coup, ça fait un paquet qui devient jalousie. Et on va appeler ça jalousie. Et là, c'est encore plus culpabilisant. Puisqu'on pense que la jalousie, souvent, c'est pas bien. On pense, on nous raconte que c'est un vilain défaut.
Ah, mais c'est bien la jalousie, ben, pour Isabelle Sidioza,
c'est pas,
oui.
C'est pas que c'est bien ou mal, c'est que c'est un sentiment qui est fait de différentes émotions.
Ah oui, d'accord.
Et donc, on ne peut pas supprimer la jalousie, on peut écouter les émotions, et si on écoute les émotions, alors la jalousie peut tomber. La jalousie est une construction dans laquelle on est enfermé. Un enfant qui est jaloux, il est enfermé dans sa jalousie et il se sent mal là-dedans. Personne n'aime être jaloux. Et donc, mais ça ne sert à rien de dire à un enfant « tu es jaloux » parce qu'il n'y peut rien. Par contre, lui dire « de quoi tu as peur? Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur que je t'aime plus ?» Là, on peut faire quelque chose.
Isabelle Filioza, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui sur notre plateau, notre invitée c'est la psychothérapeute Isabelle Filioza. Isabelle, justement, on parle aujourd'hui des frères et sœurs et de relations parfois compliquées entre eux. Un enfant qui, à l'inverse de ce qu'on vient de dire juste avant, ne réagirait pas du tout, est juste très content de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Est-ce que ça cache quelque chose? Est-ce que là aussi il faut s'inquiéter?
Bah, pas forcément, non. N'allons pas voir la petite bête là où il n'y a rien. Par contre, on est quand même attentif. Est-ce qu'il fait semblant? Est-ce qu'il cache parce qu'il aurait trop peur d'être exclu? Ou bien est-ce que c'est authentique? En fait, ça dépend vraiment du moment où ça arrive, de la qualité aussi de la relation entre les parents et l'enfant, de la disponibilité des deux parents avec les enfants. Donc tout ça, ça fait... À chaque fois, ça s'organise différemment et donc dans chaque famille, ça va se passer différemment.
Timmy ?
Est-ce qu'il y aurait justement des petits signaux qui pourraient nous dire « Ah tiens, il y a un problème avec l'aîné, je ne sais pas s'il se met à faire des bêtises, être agressif, c'est peut-être pas sans raison. »
Exactement, Jimmy. Il se met à faire des bêtises, il ne réussit plus très bien à l'école, il fait pipi au lit de nouveau.
J'allais dire, il y en a certains qui régressent, hein. Même quand ils sont grands, hein, 10 ans, 11 ans, ils ont un frère ou une sœur, ils se remettent à faire pipi au lit. Ça, ça peut être un signe de quelque chose qui cloche, hein, par rapport au frère ou à la sœur.
Et en même temps, c'est important de ne pas se mettre dans cette idée, il régresse. Nous, on le voit ça comme une régression, mais en réalité, c'est juste un signe de stress. Et donc, si je me dis, il régresse, je vais en vouloir à l'enfant et croire qu'il veut prendre la place du petit, etc. Je me mets à faire toutes sortes de constructions mentales. S'il y a une fragilité génétique, hein, parce que souvent, ça vient sur une fragilité génétique, ce n'est pas n'importe quel enfant qui va faire pipi au lit. Donc, c'est tout un ensemble de facteurs qui vont se conjuguer. Mais c'est le stress, et donc, je m'adresse au stress en écoutant les émotions.
On parle souvent des aînés, mais on oublie qu'il y a derrière un aîné parfois un cadet, l'enfant du milieu. On dit toujours que c'est la pire place. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs? Est-ce que c'est dur d'être un cadet?
Alors, c'est dur d'être à toutes les places.
C'est vrai qu'on dit toujours l'enfant du milieu, c'est difficile. Moi, ouais. Je l'ai entendu souvent.
Oui, oui.
Mais je suis l'aîné, donc ça va.
Ben, je suis une aînée aussi et c'est difficile.
Et Jimmy aussi, je crois.
Ah oui, ben, l'élite, la crème de la crème. C'est ce qu'on dit, je crois, dans les manuels.
Une grande émission avec que des aînés aujourd'hui. Alors, Isabelle, l'enfant du milieu.
Oui, aucune position n'est complètement confortable. Ce qui est compliqué pour un enfant du milieu, c'est justement qu'il est au milieu. C'est-à-dire que ni il est l'aîné, parce que l'aîné, c'est quand même quelqu'un qu'on admire, c'est le premier, c'est chic d'être le premier. Le petit, bah, c'est le petit dernier, il a aussi toutes sortes d'avantages. Et donc, quand on est celui du milieu, on a l'impression de n'être ni l'un ni l'autre. Mais en réalité, quand on écoute les enfants, les aînés se plaignent de leur place, les petits se plaignent de leur place, ceux du milieu se plaignent de leur place. Bref, il y a des avantages et des inconvénients à chaque place. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que chaque place implique un vécu différent et va participer à modeler notre caractère.
Sujet compliqué, les disputes entre frangins. Les parents qui ont plusieurs enfants doivent souvent vous poser la question, j'en suis sûre. Pourquoi ils aiment autant se chicaner?
Ah, c'est pas forcément qu'ils aiment se chicaner, mais d'une part, ils en ont besoin. Quand on voit des petits chiots, une portée de chiots, une portée de petits chatons, eh bien, ils se disputent aussi, ils se mordillent, ils se battent. Et donc, il y a toute une partie de l'expérience de la fratrie qui consiste à ça, c'est s'entraîner à la bagarre. Et plus on peut s'entraîner à la bagarre à l'intérieur de la fratrie, c'est-à-dire en situation de sécurité, ben plus on va ensuite pouvoir avoir mesurer nos forces. Parce que, en fait, c'est très important quand on ne peut pas assez jouer à la bagarre, on ne peut pas mesurer sa force et savoir à quel point on risque de faire mal.
Bah chez vous, Jimmy, en fait, c'est une histoire de petits chiots. Ça se dispute pour ça se bagarre.
Là, c'est plus des petits chiots, c'est des pitbulls que j'ai à la maison. Moi. Excusez-moi, parce que la bagarre, ça va 2 minutes, mais quand c'est non-stop et que du matin au soir, ils se cherchent. Et nous, les parents, on agit comme des gendarmes. On fait la police, on est l'ONU, on cherche à chaque fois à savoir qui a déclenché le conflit.
Alors,
savoir
ça
qui on
ça
va
sert
punir.
À rien. Surtout punir, parce que là, on augmente la bagarre. C'est-à-dire qu'il y a une saine bagarre, et puis il y a les bagarres qui sont chargées de haine. Donc là, on a besoin d'observer, nous, est-ce qu'il y a de la haine? Est-ce qu'il y a vraiment une intention de faire mal à l'autre? À ce moment-là, on intervient, parce que ça veut dire qu'il y a des sentiments, il y a des émotions qui n'ont pas été entendues, il y a des peurs, il y a de la détresse, il y a des sentiments de ne pas être aimé et compagnie. Donc, on va s'occuper de ça. Mais sinon, plutôt que de jouer le gendarme, eh bien, on va jouer le coach. Vous voulez vous bagarrer? Ok, mais on met un ring. Donc, on décide ensemble. Alors, qui se bagarre là? Vous êtes deux, vous êtes trois. Est-ce que c'est une bagarre à deux, une bagarre à trois? Et comment? Quelles sont les règles de votre bagarre? Et on peut dire, bon, alors, il y en a un qui prend le chronomètre. Et pendant 2 minutes, une bagarre. Et on voit qui gagne, et ensuite c'est l'autre, etc. C'est-à-dire qu'on va organiser les bagarres. Ben, l'avantage, c'est que quand c'est cadré, les enfants adorent les règles. Mmh. Et ils ont besoin de se bagarrer.
Donc bagarrez-vous, mais ne vous faites pas mal, quoi, en gros, hein, c'est ça.
Globalement, c'est ça. Après, ce n'est pas nous qui disons « ne vous faites pas mal », parce que ça, ils ne vont pas forcément respecter. C'est eux qui vont dire « quelles sont vos règles ?» Comment, et qu'est-ce qui se passe? Et nous, la seule chose qu'on peut dire, c'est et qu'est-ce qui se passe si ça fait mal, s'il y en a un qui ne veut pas ça? Ah bon, toi, tu crois que ces coups comme ça, c'est OK, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on fait réfléchir les enfants, mais c'est eux qui fixent leurs règles. Comme ça, on leur enseigne à se bagarrer sans violence.
Donc, inutile de vouloir chercher à savoir absolument qui a commencé le premier, parce que quand il y en a un qui pleure, il m'a mis une claque, mais il m'a mis une claque parce qu'il m'a mordu, mais il m'a mordu parce qu'il ne m'a pas donné les cartes. On ne cherche pas à savoir l'origine du conflit.
Eh bien, voilà, vous venez de le dire, Jimmy, on ne peut jamais la trouver, l'origine du conflit. Puisque finalement, ça peut être n'importe quoi. Il m'a regardé de travers et tout, on peut interpréter. Et en fait, le simple fait de penser que l'origine est de l'autre côté, eh bien c'est ça le début de la violence. Donc si nous, nous voulons enseigner la non-violence à nos enfants, cessons de chercher qui a commencé. Il n'y a pas qui a commencé, il y a une responsabilité conjointe de deux êtres. Et finalement, même si c'est l'autre qui commence, je ne suis pas obligée de mordre à l'hameçon s'il m'envoie un hameçon pour que j'y morde, non ? Donc comment je fais ? Et donc, on peut discuter. Quand ils sont suffisamment grands, on va parler avec eux de ce qui se passe. Tiens, il y a énormément de bagarres en ce moment. Parce que ça aussi, ici, il y a beaucoup de bagarres.
C'est parce qu'ils sont fatigués, parfois, vous dites aussi.
C'est parce qu'ils sont fatigués. C'est parce qu'un de leurs besoins affectifs n'est pas rempli.
Par exemple ?
Ou alors, peut-être, il y a une grand-mère qui vient de mourir. Il y a quelqu'un qui... il y a le chat qui est malade. Il peut se passer toutes sortes
une
de choses.
Une contrariété, quoi, en tout cas.
Une contrariété. Il y a un stress, un facteur de stress. Ça peut être les parents qui risquent de divorcer. Ça peut être n'importe quoi. Quelque chose occupe leur cœur, leur fait mal. Et du coup, eh ben, ça excite la situation, le stress. Et le stress dans l'organisme, dans le cerveau, ça va déclencher attaque, fuite ou immobilisation. Souvent, l'attaque. Et l'attaque, c'est la meilleure façon pour l'organisme d'arriver à survivre correctement. Donc, c'est la voie de la santé.
Est-ce qu'il faut les forcer à se réconcilier ? Souvent, je leur dis, fais un bisou à ton frère. Dis-lui que tu
faites
l'aimes,
faites la paix,
et puis on n'en parle plus.
Ah, ça s'appelle pas forcer à réconcilier, ça s'appelle forcer à continuer à faire les bagarres dans le futur.
Bravo, Jimmy, vous avez tout
forcer à accumuler de la rancune. Donc, c'est pas forcément une très bonne idée, mais accompagner les enfants jusqu'à la réconciliation, oui, bien sûr.
Moi, je fais pareil. Je leur dis, faites-vous un bisou. Allez, stop, on n'en parle plus. Allez, tout le monde, fait un bisou à tout le monde. On est nuls, en fait, comme parents, je crois.
C'est pas une question d'être nul.
C'est
une question
super nul, Mélanie.
Vous n'aviez pas encore lu le bouquin, frère et
sœur.
Voilà, à la fin, il y a un petit truc pour les parents aussi, pour savoir comment réagir dans ces cas-là. Et puis, savoir à quel moment intervenir, à quel moment ne pas intervenir. Quelquefois, c'est utile d'intervenir. Quelquefois, il vaut mieux pas. Mais quand on intervient, comment intervenir ?
Merci beaucoup Isabelle Fidioza d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et pour ceux donc qui ont des problèmes dans la fratrie chez eux, je rappelle cet outil très pratique pour les 5-12 ans, des cahiers Fidioza, frères et sœurs chez Nathan Édition. Merci encore Isabelle.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Alors toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie.
Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question d'Anne-Laure. C'est Jimmy qui va nous la lire. Ah non, on va même... Vous savez quoi ? On va l'écouter parce qu'on a une question sonore aujourd'hui.
Moi, j'avais une question particulière. Voilà, mon copain m'a avoué préférer plutôt être dominé au lit. Pour moi, j'ai toujours pensé que voilà, un homme devait d'être dominant et une femme dominée. J'ai trouvé ça assez particulier. Voilà, j'ai eu une petite réticence. Vous, qu'en pensez-vous ?
Catherine, c'est une question pour vous. Alors, pour débuter, important de rappeler.
Ah bon ?
Mais oui, voilà, c'est pas pour nous. Jimmy ne saurait pas y répondre. Vous seriez bien embêté, non, Jimmy ?
Oui, complètement. Allez-y, posez la question à l'experte.
Alors, Catherine, pour débuter, important de rappeler qu'au lit, non, l'homme n'est pas toujours le dominant et la femme le dominé. C'est pas obligatoire.
Non, mais d'abord, il faut définir ce que ça veut dire dominant et dominé. C'est-à-dire que ça n'est pas une autorité de l'un sur l'autre. C'est qui va mener le jeu. Et l'excitation, quand on est dominé, peut être tout aussi forte. Et dominé dans la symbolique, peut-être tout aussi forte, et jouer à être dominé, c'est déjà une posture dominante. C'est-à-dire, je te contrains à jouer un rôle qui me permet de te guider, de te coincer en quelque sorte dans ce rôle-là. Alors du coup, on a un peu imaginé, tendance à penser que les hommes sont dominants, ils arrivent avec un projet, les femmes le subissent, ce qui était un moyen d'ailleurs pour les femmes de ne pas se sentir coupables de leur désir et de leur sexualité, tant elles n'étaient peu accueillies par la société. Ceci étant, bien évidemment que c'est un équilibre avec deux désirs qui s'expriment et qui profitent de tous les jeux où on est dessus-dessous, où on est plus actif, moins actif, chacun à notre tour, au sein du même acte ou dans des actes différents.
Mais pourquoi le copain d'Anne-Laure a mis du temps avant d'avouer son fantasme ? Ça reste quelque chose de tabou chez les hommes, le fait de vouloir être « dominé », entre guillemets.
Oui, parce qu'il y a, pour l'homme, c'est ou d'abord parce qu'on imagine que c'est le rôle féminin, mais surtout parce que c'est un rôle enfantin. Parce que quand on est enfant, le plaisir que l'enfant, petit garçon, a avec sa maman dépend de la toute-puissance maternelle. Et donc, se dire, être excité par quelque chose qui met une position dominée plus en évidence, c'est renvoyer à quelque chose d'extrêmement archaïque dans sa construction et souvent donc pas suffisamment assumé, viril, adulte, etc.
Bah, dit comme ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre, non, de se dire que le fait d'être dominé, ça renvoie à la position dominante de la maman quand on était enfant. Ça sous-entend presque que ce ne serait pas tout à fait normal ou sain, en fait.
En fait, vous savez, nous avons dans notre sexualité des choses qui viennent de là. Hein. Ce n'est pas très agréable d'y penser, ou de, en tout cas, surtout dans l'acte sexuel lui-même, bien évidemment. Mais il faut
mettre un peu mal à l'aise, effectivement.
Voilà, mais il faut comprendre que notre sexualité, elle se construit de toute façon dans nos premiers élans amoureux et nos premières relations tendres, câlines, et donc avec maman, pour les garçons comme pour les filles, et également avec papa, etc., sans que de la sexualité à proprement parler soit en jeu.
On va changer de sujet, papa, maman. On va passer à Anne-Laure qui, malgré tout, dans cette question, a l'air surprise, a l'air un peu... Ça a l'air de la déranger un peu quand même. Ça peut déranger une femme qu'un homme veuille être soumis comme ça.
Oui, ça peut la déranger parce que ça peut la renvoyer justement à l'obligation d'être plus proactive et plus mise en avant dans son expression de désir. C'est-à-dire que là, nous étions en train de parler de ce que ça pouvait vouloir dire pour lui. Mais ce qui la dérange, elle, c'est qu'elle est obligée d'avoir une position, de prendre les choses en main. Et pour elle, c'est peut-être angoissant parce qu'elle est trop exposée, son désir est trop exposé, alors qu'elle préférerait peut-être qu'il soit caché derrière les volontés masculines.
Dernière petite question, Jimmy.
Bah, surtout qu'être dominé, enfin en tout cas soumis tel qu'elle le dit, ça ne veut pas forcément dire une histoire de BDSM, d'être attaché,
non,
d'être, voilà, on peut être
d'être
soumis
soft,
au lit,
hein,
voilà, ça peut être un peu soft.
Absolument, par exemple, il y a des hommes dans ce cas-là qui vont aimer une position où la femme est sur eux, et plutôt extrêmement directive, active, par exemple sur la position où la femme est assise sur l'homme, alors que d'autres hommes, au contraire, c'est extrêmement anxiogène et ils débandent. Donc voilà, c'est pour vous dire que la position de domination est toute relative, parce que ce n'est pas parce qu'il y en a un dessus et l'autre dessous, qu'il y a un dominant et un dominé. C'est une vue de l'esprit. Selon nos histoires personnelles, on a une aisance ou une inquiétude où on suppute une position de domination ou de soumission selon nos histoires personnelles. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué. Quand on fait l'amour avec quelqu'un, on va faire l'amour dans la même position avec deux personnes et ça ne racontera pas les mêmes choses. Prenons le cas d'une fellation. Une fellation peut être perçue par une femme comme étant une soumission et par une autre comme étant une domination, puisque justement, elle va diriger ce pénis dans son érection et dans son éjaculation. Donc c'est vraiment une vue de l'esprit. Il n'y a pas de règle qui identifie une posture comme étant plus dominante ou plus dominée. C'est une histoire personnelle.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Votre. Tous les jours de 16h à 18h, ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. À demain.